Laudetur Jesus Christus.
Les corps de 4 otages israéliens restitués ce matin par le Hamas dans le cadre de l'accord de trêve. Une journée de deuil et de douleur pour de nombreux Israéliens. Nous serons avec notre correspondante place des otages à Tel Aviv au début de ce journal. Le travail incessant et infatigable des églises au Liban auprès des plus démunis, c'est ce qu'est venu voir le cardinal Tchernay, le préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, en visite depuis hier au pays du Cèdre. Nous entendrons une religieuse des Filles de la Charité. Elle nous parlera des dispensaires où sont accueillies ces familles qui n'ont rien. À la une de ce journal également, l'église locale prise pour cible à Uvira dans la région du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les combats qui se poursuivent sur place et les gens qui vivent dans la crainte. Et puis nous irons également au Tchad où l'armée a annoncé la fin de ses opérations militaires contre le groupe terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, c'est une journée de deuil et de grande émotion en Israël ce jeudi alors que les dépouilles de 4 otages morts en captivité dans la bande de Gaza ont donc été restituées ce matin par le Hamas. Une femme, Shiri Bibas, et ses 2 enfants, Ariel et Kfir, un homme de 83 ans, Oded Lischwitz, avaient été kidnappés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Un traumatisme toujours vivace dans le pays. Notre correspondante à Tel Aviv, Julia Ganancia, se situe place des otages, là où depuis plusieurs mois, les familles suivent avec angoisse le sort de leurs proches.
C'est peut-être le jour le plus triste en Israël depuis les attentats du 7 octobre 2023. Plus de 500 jours après les attaques, les dépouilles de 4 otages ont été rendues par le Hamas et sont arrivées en fin de matinée en territoire israélien. Parmi eux, les 2 enfants Bibas, Ariel 4 ans et Kfir 9 mois au moment de l'enlèvement. Les véhicules transportant les cercueils ont pris la route direction l'Institut médico-légal de Tel Aviv. De nombreux Israéliens se sont massés au bord des routes pour voir le convoi passer. À Tel Aviv, les Israéliens sont nombreux à s'être réunis spontanément sur la place des otages. Le président de l'État a déclaré « Le cœur de tout un peuple est brisé. Au nom de l'État d'Israël, je m'incline et demande pardon. Désolé de ne pas vous avoir protégé ce jour-là. » Fin de citation. Tous attendent désormais les résultats de la procédure d'identification ainsi que le compte-rendu des médecins légistes qui doit déterminer les circonstances des décès. Les résultats pourraient prendre jusqu'à 48 heures. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et hier soir, le mouvement islamiste palestinien s'était dit prêt à libérer tous les otages restants en un seul échange pendant la deuxième phase de la trêve, dont les termes doivent être encore conclus d'ici le 2 mars. Le cardinal Michael Tchernay, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, est depuis hier au Liban pour visiter et encourager les projets de l'église locale et des organisations humanitaires. Le travail des religieux et religieuses au Liban reste essentiel dans l'aide aux plus démunis. C'est le cas des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui gèrent plusieurs écoles et dispensaires à travers le pays. Sœur Loris Obeid revient sur cette aide essentielle aux familles pauvres, notamment pour se soigner.
Nous avons des dispensaires. Et ces dispensaires travaillent beaucoup actuellement dans différentes régions parce que les gens n'arrivent plus à aller dans les hôpitaux. Je donne un exemple. Il y a des malades qui font le tour de 3 à 4 hôpitaux à Beyrouth et ils finissent par aller au Sacré-Cœur chez les Filles de la Charité. Parce que les autres hôpitaux ne les reçoivent pas, même pas à l'urgence parfois. Alors nous, on n'a pas le droit moralement et nous disons aux responsables, il faut les accueillir, faire déjà les premiers soins. Et il y a des malades que moralement et consciencieusement, on ne peut pas leur dire, allez vous soigner chez vous. Donc il faut les interner. Et ces malades ont des soins coûteux. Et personne ne peut nous payer ces factures. Les parents ne peuvent pas. Il n'y a pas d'organisme qui assure. Peut-être ils assurent des petites aides, mais pas la couverture des factures.
La sœur Loris Obeid des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Des propos recueillis à Beyrouth par Salvatore Cernuzio, notre confrère de la rédaction italienne de Radio Vatican. Une escalade effroyable du recours à la peine de mort en Iran, c'est ce que dénoncent ce jeudi 2 ONG dans un rapport. L'organisation iranienne Iran Human Rights, basée en Norvège, et celle française Ensemble contre la peine de mort. Selon elle, en 2024, Téhéran a exécuté au moins 975 personnes, une véritable guerre que la République islamique mène contre son propre peuple, dénonce-t-elle. Je vous en parlais dans les titres, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est toujours préoccupante. C'est le cas notamment dans la ville d'Uvira, au sud de Kivu. La population vit dans la peur, alors que le M23 est à 35 km de cette ville. Dans la ville, les affrontements ont eu lieu ces dernières heures entre des soldats de l'armée congolaise qui veulent fuir et les Wazalendo, des milices pro-gouvernementales qui veulent récupérer les armes des soldats avant de les laisser partir. Il y aurait des morts et des blessés, notamment à l'évêché. C'est la première fois que l'église locale est prise pour cible, ce que nous explique une voix d'église contactée sur place.
Il y a 3 militaires par décès qui sont introduits ce matin à 8h30 chez Monseigneur l'évêque. Ils ont brandi l'arme, ils avaient une seule arme. Ils ont brandi l'arme sur Monseigneur l'évêque et sur 2 prêtres qui se trouvent avec lui, dont son chancelier et notre prêtre. Ils ont demandé de l'argent. Ils ont dit que les prêtres ne peuvent pas manquer de l'argent. Alors, le chancelier a dit à ses militaires d'aller chercher l'argent chez lui au bureau. Ils sont allés au bureau. Ils avaient déjà pris tous les téléphones de Monseigneur l'évêque, les téléphones du chancelier. Et ils sont allés avec le chancelier à son bureau. Il a donné une somme d'argent qu'il avait sur lui. Et puis, ils ont enfermé le chancelier dans sa chambre, dans son bureau. Et ils sont répartis, laissant Monseigneur au salon avec l'autre prêtre et le chancelier dans son bureau. Voilà un peu la situation. Il y a d'autres prêtres qui sont allés, dont l'économe général, qui sont allés voir Monseigneur l'évêque. Ils sont là jusqu'à présent parce qu'ils ont difficile à rentrer dans la communauté étant donné qu'il y a encore des crépitements de balles par-ci, par-là.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Il y a des morts et des blessés dans la ville et non à l'évêché. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est lui réuni une nouvelle fois hier soir à New York pour discuter de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa demande à la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda accusé de soutenir le M23. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir, a tonné la chef de la diplomatie congolaise. Cérémonie symbolique en Côte d'Ivoire ce jeudi matin près d'Abidjan. La France a rétrocédé sa base militaire de Port-Bouette, située près de la capitale ivoirienne, une base que les troupes françaises occupaient depuis 1978. Cérémonie en présence des ministres de la Défense français et ivoiriens. Un acte qui marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de coopération stratégique entre nos deux nations, a souligné le ministre ivoirien. Au Tchad, les autorités ont annoncé, elles, la fin de l'opération militaire baptisée Ascanite. Elle avait pour objectif de lutter contre les membres de la secte terroriste Boko Haram et fut lancée au mois de décembre dernier après l'attaque d'une base militaire sur l'île de Bakaram, sur le lac Tchad. Les précisions de notre correspondant à N'Djamena, Abba André Dieudonné.
Selon le général Anan Issaka Hachek, directeur de la communication des forces armées nationales tchadiennes, l'opération Ascanite dirigée par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a atteint son objectif. Faisant le bilan de cette riposte, il a déclaré que ses actions militaires ont permis de neutraliser cette nébuleuse et leurs responsables.
Le bilan total de ces opérations est de 297 terroristes neutralisés et 163 blessés, 112 armes individuelles et 5 armes collectives récupérées, 7 hors-bord équipés de 12,7 mm récupérés, 15 hors-bord et 13 pirogues détruites, plusieurs campements avec matériel détruit.
Le général Hachek déplore par ailleurs 27 morts côté amis, dont 3 civils et 41 blessés. Avec cette opération, dit-il, Boko Haram est complètement anéanti et ne représente aucune menace pour la région. De nouvelles mesures sécuritaires ont été mises en place pour garantir la stabilité de la région et éviter toute résurgence de la menace, rassure le général Hachek. Cependant, certains observateurs appellent à la vigilance, rappelant que Boko Haram a montré par le passé sa capacité de se reconstituer malgré des pertes militaires significatives. Abba André Dieudonné N'Djamena pour Radio Vatican.
Voilà, avant de refermer ce journal, ces informations concernant l'état de santé du pape François, le Saint-Père a passé une nuit paisible, a précisé la salle de presse du Saint-Siège ce matin. François qui a pu prendre son petit déjeuner, se lever et se prendre son petit déjeuner dans un fauteuil. Le pape qui par ailleurs poursuit, a-t-on appris, ses activités de travail. Un nouveau bulletin de santé du pape est attendu dans la soirée. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur vaticannews.va. Et ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes depuis Rome. Ce sera bien entendu à 18h. Je vous souhaite d'ici là une excellente après-midi.